Chapitre 3. Aux sources des affects. Les émotions sont donc susceptibles d'induire, chez les auditeurs, une prise de conscience comme une saturation de conscience. Dans le premier cas, nous nous assurons qu'ils comprennent pleinement la situation dont nous leur parlons. Dans le second, nous faisons en sorte qu'ils soient moins critiques à l'égard des arguments que nous leur présentons. D'une manière ou d'une autre, nous améliorons nos chances de susciter l'adhésion. Si nous désirons convaincre, il va donc bien nous falloir apprendre à émouvoir. Voilà qui, de but en blanc, semble mission impossible. Ces affects insaisissables, inexplicables, indéchiffrables, nous prétendrions pouvoir les réduire à une méthode, une équation ? En effet, c'est précisément ce que nous prétendons. En tant qu'oratrice ou orateur, le temps est venu de maîtriser les effets des affects. Et pour cela, nous allons devoir revenir à leur source. 1. Les différentes émotions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, affinons notre analyse en examinant la liste des différentes émotions susceptibles d'être ressenties par les êtres humains. Elles sont autant d'outils à notre disposition lorsque nous recherchons la conviction. Cette question est examinée depuis fort longtemps par la recherche en psychologie. De nombreux travaux s'attellent notamment à identifier les émotions primaires qui sont à la source de tous les autres affects. Elles ont pour spécificité d'être universelles, c'est-à-dire partagées par l'ensemble des êtres humains sur Terre, quelle que soit leur culture. Elles tendent par ailleurs à être accompagnées d'expressions faciales qui, elles aussi, sont communes à tous les individus. C'est ainsi que nous sommes capables, instantanément, de reconnaître une émotion lorsqu'elle se dessine sur le visage de quelqu'un. Parmi elles, on cite invariablement la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse, le mépris et la surprise, mais il faudrait sans doute y rajouter l'amusement, le soulagement, l'excitation, la fierté, la culpabilité, la honte, l'embarras, l'envie, la nostalgie. Nous touchons ici aux limites de ces travaux, ils ne parviennent pas, pour lors, à s'accorder sur une classification stabilisée. Et après tout, là n'est pas l'essentiel. Du point de vue de la rhétorique, peu importe au fond de savoir si l'émerveillement n'est qu'une intensité particulière de la joie ou bien une véritable émotion primaire. Ce dont nous avons besoin en tant qu'oratrices ou orateurs, c'est de déterminer quelles émotions nous allons chercher à susciter dans un contexte donné. Celles-ci peuvent être rassemblées en quatre grandes familles, dont nous verrons qu'elles ont chacune une utilité spécifique: l'anxiété, l'enthousiasme, l'aversion et la compassion. Étude de cas. Une succession d'événements dramatiques et complexes vient de se produire. Un jeune homme est décédé durant un contrôle de police en banlieue de Paris. Les circonstances de la mort sont encore floues. La victime aurait été arrêtée au volant d'une voiture volée, mais son interpellation se serait ensuite déroulée dans une grande brutalité. À la suite de ce drame, des émeutes éclatent plusieurs soirs de suite dans les quartiers populaires environnants. 24 voitures ont déjà été incendiées, 3 commerces pillés, 2 policiers blessés. La tension ne semble pas vouloir retomber. Je suis un acteur du débat public et je m'apprête à prendre la parole sur une grande chaîne d'information. En me fondant sur ces faits, quelles émotions vais-je mobiliser ? Tout dépend de mon projet. Si je représente un parti conservateur, je vais probablement susciter de la compassion pour les policiers blessés et de la peur à l'égard des jeunes responsables du désordre. Si je parle au nom d'un parti progressiste, je vais au contraire susciter de la peine à l'endroit du jeune homme décédé et de la colère à l'encontre des violences policières. Enfin, si je suis un responsable associatif, désireux d'appeler au calme, je vais surtout susciter de la tristesse pour cette vie perdue et ces individus blessés, et de l'espoir, celui d'une tranquillité bientôt retrouvée. Décryptage. Une même situation peut ainsi susciter des émotions et sous-tendre des propositions divergentes, voire opposées. Tout dépendra des éléments factuels sur lesquels nous insistons et de notre manière de les présenter. À chaque fois que nous nous engageons dans une entreprise de conviction, il nous faut donc déterminer quelles sont les émotions qui tendront à faciliter naturellement l'acceptation de notre position. Ce questionnement, hélas, ne saurait recevoir une réponse stéréotypée. Chaque contexte étant unique, chaque argumentation différente et chaque auditoire singulier, c'est aux oratrices ou aux orateurs qu'il revient d'identifier les affects les plus adaptés. En revanche, sans nous en rendre compte, nous venons de rencontrer un point crucial. Pour parvenir à susciter des émotions, il va nous falloir interroger les situations dans lesquelles elles prennent racine. 2. Les situations émouvantes. Les affects ne naissent pas tout seuls, de manière spontanée. Ils s'ancrent toujours dans un contexte particulier. Nous n'avons jamais peur sans raison, ni ne sommes joyeux sans motif. Il y a quelque chose qui nous effraie ou nous enjoue. Nous pouvons bien sûr échouer à retrouver la source de notre émotion, la vivre sans la comprendre. Mais sous le flot de la conscience, celle-ci trouve toujours son origine dans une situation concrète, fût-elle observée par le prisme déformant de notre intériorité. En psychologie, on dit que les affects ont des antécédents cognitifs. Si nous désirons apprendre à émouvoir notre auditoire, il va donc falloir comprendre ce qui rend une situation émouvante. C'est ainsi que nous saurons sur quels faits nous devons insister, quel fragment de la réalité mettre en avant afin de susciter des affects et d'emporter la conviction. Pour employer le vocabulaire de la communication, nous dirons qu'il faut travailler notre cadrage. Tel un photographe qui choisit l'angle et la focale de son appareil afin de ne montrer qu'un pan de la scène, nous allons soigneusement attirer l'attention sur certains aspects de l'événement et passeront sous silence les détails dont il vaut mieux ne pas faire mention. Le cadrage d'un discours se construit comme celui d'une image. La rhétorique se révèle parfois aussi visuelle que la composition photographique. Nous allons donc voir comment exploiter pleinement le potentiel émotionnel des différentes situations. Celui-ci se ramène au fond à 6 critères principaux: la proximité, l'intensité, l'identité, l'agentivité, la similarité, la matérialité. La proximité. Nous avons tendance à être plus facilement émus par ce que nous percevons comme proche de nous plutôt que par ce qui nous paraît éloigné ou étranger. Plus un événement nous évoque notre quotidien, plus nous parvenons à nous le représenter et plus il est susceptible de nous toucher. Les événements nous émeuvent dans la mesure où ils nous concernent. Ou, plus exactement, dans la mesure où nous nous sentons concernés. Il s'agit d'un critère capital. C'est lui, en grande partie, qui va déterminer le potentiel émotionnel de chaque situation. D'autant que cette proximité peut se déployer dans de multiples dimensions, géographique, chronologique, sociologique, affective, etc. Exemple. Si nous disons « l'attentat s'est produit quelque part dans les Balkans », nous produisons moins d'émotions qu'en utilisant la phrase « l'attentat s'est produit à 2 heures de Paris ». En changeant le référentiel géographique, nous avons ancré l'événement dans le quotidien. Il paraît soudain plus proche, plus familier, et donc plus abominable. De la même manière, au lieu d'affirmer « faute d'un repreneur, les employés vont se retrouver au chômage », nous devrions ajouter « Faute d'un repreneur dans les 15 jours, les employés vont se retrouver au chômage. L'urgence de la situation, l'imminence de son échéance, rend ses implications davantage palpables, réelles et donc angoissantes. Il en va de même si nous annonçons « cette vieille dame a été racketée dans la rue ». Nous susciterons de la compassion, assurément, mais moins que si nous avions spécifié « cette vieille dame a été racketée en bas de chez elle ». Chacun peut comprendre le traumatisme que représente une agression à la porte de son domicile. On s'imaginera être attaqué en partant faire ses courses, l'événement prend forme dans notre esprit et soulève d'autant plus d'empathie. Quant à la phrase « un homme a été retrouvé mort de faim chez lui », elle suscitera assurément moins d'affect que si nous précisons « un instituteur à la retraite a été retrouvé mort de faim chez lui ». À l'instant où nous mentionnons sa profession, la victime prend chair. Tout le monde se dira qu'il pourrait s'agir du professeur de son enfance. La situation rapportée fait irruption dans la réalité et provoquera davantage d'indignation. Dans tous ces exemples, c'est le sentiment de proximité qui permet d'impliquer l'auditoire. Pour le susciter, nous nous sommes contentés de travailler sur la quantité d'informations dévoilées, soit en supprimant les détails qui pouvaient sembler éloigner la situation, dans les Balkans, soit en ajoutant des précisions afin de dépeindre la scène plus vivement. À chaque fois, les faits rapportés étaient identiques. La manière de les exprimer, également, des phrases très neutres, peu ornementées. Mais en attirant l'attention sur tel ou tel aspect des événements, nous leur appliquons un cadrage différent, modifions radicalement leur perception et produisons davantage d'émotions. L'intensité. Cela va sans dire, nous avons tendance à être davantage émus par ce que nous percevons comme grave ou intense, plutôt que par ce qui nous paraît anodin ou modéré. Toute triviale que semble cette remarque, il n'en découle pas moins d'importantes applications pratiques. Car le critère d'intensité peut, lui aussi, se déployer sur plusieurs dimensions différentes, le nombre, les symboles, les compétences, etc. Exemple. La phrase « un attentat meurtrier vient d'être commis » devient plus émouvante dès lors que nous ajoutons « un attentat meurtrier vient d'être commis, 32 personnes assassinées ». Indiquer le nombre de victimes permet d'insister sur l'ampleur du drame. Il en va de même pour l'énoncé « les manifestants ont dégradé un monument ». Nous devrions préciser « les manifestants ont dégradé la tombe du soldat inconnu ». En précisant la nature de l'édifice vandalisé, nous modifions considérablement la perception de la gravité du méfait. Non seulement il s'agit d'une tombe, mais elle porte de surcroît une forte charge historique et politique. Enfin, si nous disons « 13 familles sont encore logées dans ce bâtiment insalubre », nous produisons déjà des affects. Mais l'effet se trouvera démultiplié si nous ajoutons « les enfants tombent régulièrement malades et peinent à suivre leur scolarité ». La situation elle-même pouvait susciter de la compassion, mais en précisant toutes ces implications, nous basculons dans l'indignation. Là encore, l'essentiel du travail s'est porté sur la quantité d'informations que nous avons choisi de dévoiler. Dans le premier cas, nous avons attiré l'attention sur son ampleur quantitative, dans le deuxième, sur sa gravité symbolique, et dans le troisième, sur ses conséquences pratiques. À chaque fois, une petite précision supplémentaire a suffi pour mettre en lumière l'intensité de la situation et susciter un surcroît d'émotions. La matérialité. Le troisième critère fondant le potentiel émotionnel d'une situation est, lui aussi, relativement évident. Nous avons tendance à être plus facilement émus par ce qui nous semble avéré et précis plutôt que par ce qui nous paraît douteux et vague. Lorsqu'une incertitude subsiste sur la réalité d'un fait, nous conservons naturellement une certaine réserve. Tant qu'un drame tragique reste hypothétique, nous gardons espoir. Tant qu'une heureuse nouvelle n'est pas confirmée, nous évitons de nous réjouir. Et quand bien même les événements seraient hors de doute, tant qu'ils restent flous, nous avons du mal à nous les représenter. Plus une situation prend de la matérialité, et plus elle parvient à nous toucher. Exemple. Pour illustrer la première de ces deux dimensions, la certitude, inspirons-nous d'une situation qu'un grand nombre d'entre nous ont déjà connue. En plein après-midi, nous recevons un message de la part de notre compagne ou compagnon. « Tu rentres tard ce soir ? Il faut qu'on parle. » Notre esprit s'emballe. En quelques secondes, nous avons une idée assez précise du sujet de la discussion. Voilà quelques semaines que nous sentions notre partenaire de moins en moins impliqué dans la relation. Selon toute vraisemblance, nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à faire nos cartons. Mais, en dépit de cette quasi-certitude, ce n'est qu'après avoir effectivement entendu les mots redoutés « c'est terminé » que nous sentirons le tourment nous submerger. L'événement avait besoin de devenir certain pour prendre sa matérialité. Quant à la seconde dimension, la précision, nous en avons déjà donné plusieurs illustrations. Elle participe à expliquer pourquoi, d'une manière générale, plus nous ajoutons de détails à une information et plus elle tend à susciter des émotions. L'identité. L'identité des acteurs impliqués dans une situation participe également à déterminer son potentiel émotionnel. Là encore, ce critère se déploie en une multitude de dimensions. Toutefois, une grande partie d'entre elles découle directement de l'importance capitale de la proximité. Nous sommes, par exemple, moins touchés par ce qui arrive à de parfaits inconnus qu'à des célébrités, pour la simple raison que nous nous sentons proches de ces dernières. Elles font partie de notre quotidien, fût-ce par la médiation de notre poste de télévision. Près de 3 milliards de téléspectateurs ont été émus par l'union du prince Harry et de Meghan Markle, tandis que les photos de mariage d'un collègue de la comptabilité nous accableront d'un ennui mortel. De la même manière, nous percevons plus vivement les joies et les peines des personnes dont nous partageons l'âge, la profession, la religion, le lieu de naissance ou de résidence. Il existe toutefois une dimension au moins de l'identité qui n'entretient aucun lien avec la proximité, tout en déterminant largement l'intensité des affects mobilisés dans une situation donnée. Il s'agit de la vulnérabilité. Nous avons tendance à être davantage émus par ce qui arrive à des personnes que nous percevons comme fragiles ou vulnérables, plutôt qu'à celles qui nous semblent fortes, solides ou résilientes. Exemple. Si nous lisons en une de notre journal « Crash d'un A380 dans le Pacifique, 436 morts », nous nous sentons affligés. Mais si le titre précise « 436 morts, dont 29 enfants », nous serons probablement dévastés pour la journée. Une nouvelle fois, les faits rapportés sont les mêmes, mais une précision supplémentaire sur l'identité des victimes suffit à en décupler l'impact émotionnel. L'agentivité. De manière moins intuitive, nous avons tendance à être plus facilement émus par ce qui nous semble dépendre de nous plutôt que par ce sur quoi nous avons l'impression de ne pas avoir prise. Nous éprouverons davantage de ressentiment ou de gratitude s'il existe quelqu'un à blâmer pour un drame ou à remercier pour un bienfait. À l'inverse, plus une situation nous paraît inexorable et plus nous l'accueillerons avec fatalité et résignation. Exemple. En allumant notre poste de télévision, Nous apprenons qu'un accident dans une usine de produits chimiques a fait un mort et 16 blessés. Nous en ressentons naturellement de la tristesse. Le présentateur ajoute alors que, malgré des demandes répétées de la part des employés, le propriétaire n'avait pas procédé à la mise aux normes des équipements de sécurité. Notre tristesse en est immédiatement décuplée et se mêle de colère. Parce que nous avons le sentiment que le drame aurait pu être évité, nous en sommes davantage éprouvés. Par cette simple précision, de l'agentivité a été introduite dans la situation, générant un surcroît d'émotions. La similarité. Il existe dans notre mémoire individuelle et collective des souvenirs saturés d'affect. Leur seule mention suffit à rappeler le triomphe, la terreur ou le désespoir. Un mariage ou un accident de voiture, une victoire ou une défaite à la Coupe du monde de football, une guerre ou une pandémie. Dès lors qu'une situation à laquelle nous sommes confrontés nous évoque l'un de ces événements surchargés en émotions, elle en devient elle-même plus émouvante. Exemple. Si nous affirmons que tel pays conserve les demandeurs d'asile dans des centres de rétention, nous ne susciterons guère plus qu'un haussement de sourcils. En revanche, si nous disons qu'ils les enferment dans des camps, nous ne manquerons pas de soulever une vague d'émotions. Inévitablement, et sans même que nous ayons besoin de le dire explicitement, les auditeurs feront le rapprochement avec le traumatisme des camps de concentration. Ceux qui considéreront cette comparaison fondée s'indigneront. Ceux qui la trouveront injustifiée protesteront. Dans un cas comme dans l'autre, un seul mot aura suffi pour gorger notre phrase d'affect. L'art du cadrage. Des événements intenses, proches de notre quotidien, précis et certains, qui impliquent des responsables, mettent en jeu des personnes vulnérables, évoquent des souvenirs mémorables, voilà le portrait robot d'une situation émouvante. En tant qu'oratrices ou orateurs, il ne suffit donc pas de déterminer quels affects sont le plus à même d'emporter l'adhésion. Il nous reste encore à travailler la présentation des antécédents cognitifs situés à leur source. Cela ne nécessite nullement de mentir ni de tordre la vérité, simplement de savoir trier entre ce que l'on choisit de dire ou de ne pas révéler. Par ce simple travail de sélection des informations, nous augmentons déjà nos chances de susciter des émotions et améliorons notre force de conviction. Les faits, au fond, sont-elles des pierres précieuses ? Ils demandent à être taillés avec soin si l'on désire en révéler les surfaces rutilantes. Celles qui, prenant la lumière jusqu'à en éblouir notre auditoire, ne donnent plus à distinguer qu'un seul reflet de la réalité, celui que nous avons choisi de montrer. L'art du cadrage en rhétorique consiste à ne dire que ce que nous voulons laisser voir et taire ce qui doit demeurer dans l'obscurité. Cela ne sera pas assez, toutefois, pour émouvoir. Pas encore. Élaborer le cadrage de l'événement n'était qu'un préalable. Nous devons maintenant l'arranger en mots, en sons et en mouvements. Révéler l'émotion au grand jour par un discours cristallin. Nous avons taillé notre joyau, il reste à façonner son écrin.